Radio Kapi.
Le journal, présenté par Jocelyne Moussaou-Pondé.
Soutien du FMI à la RDC, 262 millions de dollars débloqués pour renforcer les réserves et soutenir la résilience économique. Mais l'institution financière appelle Kinshasa à corriger les écarts dans la mise en œuvre des réformes. Une année scolaire sacrifiée dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Des dizaines d'écoles fermées, des milliers d'enfants privés d'éducation, pris en otage par la guerre qui continue de ravager la région malgré les appels à l'aide des défenseurs de droits humains. L'invité de la rédaction est Bruno Lemarquis, le coordinateur de l'action humanitaire en RDC, décrypte la crise de 7 millions de déplacés internes et les défis liés à la baisse de l'aide. Bonsoir à tous. Économie pour ouvrir ce journal. Parlons de cette bouffée d'oxygène financière malgré un fardeau sécuritaire croissant. Le Fonds monétaire international a débloqué près de 262 millions de dollars pour Kinshasa, un soutien crucial pour le pays confronté à des défis sécuritaires importants à l'Est. Dans un entretien exclusif à Radio Kapi, le représentant pays du FMI invite les autorités congolaises à redoubler d'efforts pour éviter les lacunes dans la mise en œuvre de ces réformes, à l'instar de la multiplicité des dépenses en mode d'urgence. Michel Kifindangoy nous en parle.
À en croire le représentant pays du FMI, les fonds décaissés sont spécifiquement destinés à renforcer les réserves internationales de la RDC et à constituer des marges de manœuvres essentielles face aux chocs imprévus. René Tapsoba.
L'enjeu ici, c'est de poursuivre ce renforcement de la résilience économique du pays en consolidant les gains de stabilisation macroéconomique, mais aussi en approfondissant et en accélérant surtout les réformes structurelles, d'assurer une mobilisation des recettes budgétaires et aussi d'améliorer tout ce qui est transparence et gouvernance.
En dépit des décaissements de 262 millions de dollars, le FMI a tout de même identifié les lacunes dans la mise en œuvre de ces réformes, souligne le représentant pays du FMI.
Premièrement, le critère quantitatif relatif au plafond sur le déficit budgétaire intérieur qui a été dépassé en raison des niveaux élevés des dépenses exceptionnelles de sécurité et aussi de l'augmentation des investissements.
Le FMI devrait décaisser jusqu'à 3 milliards de dollars si le gouvernement exécutait fidèlement les réformes en cours.
À Beni au Nord Kivu, la ville connaît une pénurie de carburant depuis 4 jours. En cause, la contestation par les opérateurs économiques de la nouvelle réglementation douanière sur la déclaration des produits pétroliers. Résultat, environ 60 camions citernes venus d'Afrique de l'Est sont bloqués à Beni, ce qui fait flamber le prix du litre d'essence à la pompe qui est passé de 3400 francs à 5000 voire 6000 francs congolais chez les revendeurs communément appelés Kadhafi. Autre conséquence, une course à moto de 1000 francs revient à ce lundi à 3000 francs congolais. Eugène Kambalé, responsable de l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane dans la ville de Beni, affirme que des discussions sont en cours entre la DGDA et les opérateurs économiques pour débloquer la situation. Il est au micro de Marc Marofimbo.
La situation n'est pas d'abord nouvelle. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle structure de prix qui a été publiée, les opérateurs économiques, parfois, ils ont du mal à s'y adapter. Mais la réalité, c'est que la structure a toujours été publiée, soit à la fin du mois, ou soit après 2 ou 3 mois. Et à chaque fois que cela est fait, s'il y a des petites modifications qui ont été constatées dans la structure, parfois, ça crée ce que vous observez aujourd'hui. Ce qui pose problème, effectivement, c'est l'adaptation des opérateurs économiques à respecter la structure de prix. Nous tous, nous sommes en train de faire un effort pour sensibiliser les opérateurs économiques pour qu'ils respectent la structure de prix. Il n'y a pas autre chose que ça. La structure de prix, c'est la norme, c'est la réglementation des produits pétroliers. Donc il n'y a personne qui peut vendre son propre prix dans la douane pour dire « moi je vais payer autant ». Elle n'est pas négociable. Nous, les déclarants à douane et les douaniers, nous appliquons tous la structure de prix. Et nous n'avons pas des arrangements locaux à faire ici avec les douaniers pour faire autre chose que ce qui a été publié.
Nord Kivu encore, je l'ai dit dans les titres, l'année scolaire 2024-2025 se termine mal dans une dizaine d'écoles primaires et secondaires du territoire de Massissi. La guerre que vit la province depuis janvier 2025 a créé une situation préoccupante pour l'éducation dans cette entité, révèlent certains défenseurs locaux de droits humains. Ces derniers citent, entre autres, le groupement Boabo, où une dizaine d'écoles n'ont pas étudié du tout durant tous les deuxièmes semestres de l'année scolaire. Le point avec Élise Cavira.
Ce sera une année presque blanche dans au moins 20 écoles de la chefferie des Bahoundé ainsi que du secteur Osobanyungu, entre autres. Des attaques armées et affrontements entre les M23 et l'armée congolaise soutenue par les groupes armés locaux, suivis des déplacements massifs des populations, ont rendu difficile l'accès aux écoles pour de nombreux enfants. Une situation qui a contraint plusieurs écoles à suspendre les activités. C'est seulement vers le mois de mai dernier qu'avec trop de peine, les autorités scolaires ont demandé aux chefs d'établissement scolaire de mobiliser les élèves, en particulier des classes terminales, à reprendre les cours. C'est avec l'intention de sauver un tant soit peu l'année scolaire. Si quelques élèves dans leur milieu d'exil ont été réinsérés dans des écoles existantes, ils sont des milliers à voir carrément leur année inachevée. Les écoles secondaires Boabo, Buzihe, Butiro, Mukubango, Lutangarwa, Kiroche et Masika, ainsi que les écoles primaires Muhanga, Babo, Boabo, Kihumba, Masika, Shakingi, Tete sont entre autres écoles affectées. Nos sources parlent aussi des écoles primaires Bushihi, Shoa et Mbiti dans le groupement Banyungu qui rallonge la liste jusqu'à présent non exhaustive. Une situation déplorée par les acteurs de la société civile du territoire de Masisi au moment où l'année scolaire touche à sa fin.
En Ituri, les forces conjointes FRDC et armée ougandaise UPDF poursuivent ce lundi leurs opérations contre les bastions des rebelles des ADF dans la profondeur de l'Oloua, territoire de Mambasa. Selon des sources sécuritaires, l'objectif de ces opérations est de mettre fin aux menaces de ces rebelles contre les civils dans cette région. Pour leur part, les leaders communautaires appellent les autorités militaires à sécuriser les agglomérations le long de la route nationale numéro 4 pour la protection des habitants et des usagers de la route. Martial Kizabiamongo nous fait le point.
Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues ce lundi matin dans plusieurs villages de Loloa, centre Bandégué, Matolo, Mikanya, Menzi-Menzi, Samoko, Kiterin et Zakia. Des sources sécuritaires indiquent que les forces conjointes FARDC et UPDF ont pour objectif de déloger les ADF de leur bastion de Madinadé. Tout en saluant ces opérations conjointes de leaders communautaires et membres de la société civile de Mambasa, appelle la population à la vigilance, mais aussi à renforcer sa collaboration avec les forces de sécurité en dénonçant toute infiltration de l'ennemi. Il demande également aux forces conjointes de renforcer leur présence dans les agglomérations sur la route nationale numéro 4. Cela en vue d'éviter de prendre la population pour la cible pendant leur fuite suite à la pression militaire dans la région. Depuis hier lundi, l'armée régulière et son allié ougandaise, le UPDF, régularisent les trafics sur la route nationale numéro 4 entre Komanda et Mambasa pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Pendant que les opérations militaires se poursuivent dans l'Est, au Congo central, c'est la sécurité urbaine qui mobilise les autorités. À Matadi, la police provinciale veut professionnaliser ses interventions. Le nouveau commissaire provincial vient de remettre une quantité importante des menottes aux responsables de la police criminelle. Pour Bertin Yahweh Soumanda, l'idée derrière cette dotation est de promouvoir le respect des droits humains en empêchant l'utilisation des cordes sur les criminels au moment des arrestations. C'était à l'occasion de la première parade qu'il a présidée ce lundi à l'état-major commandement de la police à Matadi devant toutes les unités de la police nationale congolaise. Le point avec Nana Pourichmambou.
C'est l'eau important des menottes, le commissaire provincial de la police l'a remis à son adjoint en charge de la police judiciaire, qui ensuite a confié son utilisation aux responsables de la police criminelle. Cette acquisition permettra de procéder aux arrestations avec respect des droits humains, comme l'indique le commissaire provincial, le commissaire divisionnaire adjoint Bertin Yahweh Soumanda.
Et je veux à ce que tout se fasse dans le respect des droits de l'homme. Qu'il n'y ait pas de torture, qu'on puisse arrêter des personnes qui sont arrêtées, qu'on puisse réunir les preuves qu'il faut et qu'on puisse déférer les personnes qui sont à déférer auprès des instances avec des preuves irréfutables.
Au cours de cette parade, marquant sa première prise de parole devant les éléments de la troupe, les responsables de la police du Congo central a mis en garde tout policier impliqué dans les activités criminelles en province.
Quand je suis arrivé ici, il y a 2 semaines de mon arrivée, j'avais arrêté un policier qui était dénoncé par la population du quartier. On l'a arrêté, on l'a envoyé à l'auditorat. Pour dire que si nous voulons combattre les criminels, nous devons faire d'abord le toilettage dans nos rangs. Donc si dans nos rangs, il y a des brebis galeuses, on doit les dénicher, les démasquer, les mettre hors d'état de nuire.
Bertin Yahweh Soumanda a clôturé la parade en réitérant l'appel à la dénonciation et en appelant les policiers à la discipline, au travail ardu, ainsi qu'au respect des institutions légalement établies. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
De la sécurité urbaine à la paix communautaire au Kasaï oriental, des avancées sont signalées dans la réconciliation entre 3 chefs traditionnels du territoire de Katanda après plus de 40 ans des conflits fonciers entre les communautés Benakapuya, Bena Shimba et Bena Mwimbia. À cet effet, un forum sur la paix est même annoncé pour bientôt. C'est ce qui ressort de la rencontre de remise jeudi dernier à Kinshasa au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur du rapport final des processus des réconciliations effectués par les responsables de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Kasaï, pour le Grand Kasaï. Sa Majesté Lemba Lemba Kela Katoa indique que Katanda est devenue une oasis de paix. Le président de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières du Grand Kasaï, Sa Majesté Lemba Lemba Kela Katoa, a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Le VPM nous a reçus, c'était pour que nous puissions préparer notre audience avec les chefs de l'État. Vous savez vous-même que hier, Katanda était une zone rouge. Aujourd'hui, c'est un oasis de paix. Nous avons laissé la paix. Donc, Katanda, guerre comme telle, il faut tourner ça à l'histoire. Nous allons encore rentrer pour accompagner cette paix-là. Et ça sera pour bientôt. On va organiser un forum de paix. Toutes les autorités seront présentes à Katanda pour cimenter cette paix-là. Ce qui divisait les enfants de Katanda, c'était le problème des limites des terres. Alors maintenant, nous allons demander au chef de l'État de nous faciliter la tâche en nous confiant les experts de l'Institut géographique qui peuvent descendre ensemble avec nous et montrer chacun ses limites. C'est le seul point qui reste. En plus, on ne refuse à personne d'aller cultiver chez Kapuya ou chez Shimba ou chez Mwembia.
Au Kasaï central voisin, le dialogue semble encore difficile entre les élus de l'Assemblée provinciale et la société civile hausse le ton. La Société congolaise pour l'état de droit, SCED en sigle, s'inquiète de ces dysfonctionnements. Dans une pétition adressée à ses élus du peuple, la structure leur accorde 1 semaine pour mettre fin à leurs divergences. Le directeur général de la SCED souligne que, si cela n'est pas fait, action citoyenne visant à obtenir la fermeture de l'Assemblée provinciale du Kasaï central si les lois de la République le permettent. Dominique Kambala sur ses propos recueillis par François Kadima.
L'Assemblée provinciale n'a pas fonctionné normalement depuis la dernière session de septembre 2024. La crise politique que vous avez provoquée a pour cause principale la recherche des intérêts égoïstes. Cette crise porte très gravement atteinte aux attentes des populations. Depuis le début de cette législature, l'Assemblée provinciale n'a produit aucun résultat concret. Appelons à votre bonne conscience pour résoudre votre propre crise par un dialogue sincère et franc, sans interférence du ministère de l'Intérieur et sans toute interférence politique. Exigeons la résolution sans délai de la crise politique qui risque d'entraîner des graves dégâts politiques et sociaux collatéraux. Prévenons qu'à défaut d'un compromis politique, entreprendrons dès la semaine prochaine les actions citoyennes visant à obtenir la fermeture de l'Assemblée provinciale si les lois de la République le permettent.
Et au milieu de ces turbulences politiques, d'autres initiatives citoyennes tentent d'apporter du changement. Retournons à Matadi au Congo central avec le lancement ce matin de la campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets plastiques. Cette activité est initiée par le conseil de la commune de Nzanza en partenariat avec l'entreprise Shinelvi Mister, spécialisée dans la transformation des plastiques en pavés écologiques. D'après le conseiller Chito Bugualanga Mazo, cette campagne vise à réduire la pollution plastique en recyclant les déchets en matériaux durables, ainsi contribuer à la protection de l'environnement. Le point avec Nana Plurish Mambu.
Cette campagne est lancée au rond-point Belvédère dans la commune de Nzanza à Matadi. À cette occasion, les conseillers de la municipalité de Nzanza et l'équipe de l'entreprise Chinelvi Mystère, œuvrant dans les recyclages des plastiques, ont ramassé rien qu'au rond-point Belvédère une grande quantité d'emballages plastiques. Cette campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets plastiques a besoin d'un appui financier. Chito Bungwala Ngamazo, conseiller communal de Nzanza, en appelle à l'accompagnement des autorités.
Avec l'établissement Chinelvi Mystère qui est spécialisé, demandez aux autorités de les appuyer. Parce que tout ce qu'elle fait comme travail de récupérer, de recycler, ça se fait d'une manière un peu artisanale. Or, si les autorités donnent des moyens, ils vont acheter des machines, peuvent avoir une capacité de production industrielle, ça va faciliter la production des pavés écologiques et ça va résoudre tout ce qui est comme problème dans notre environnement.
Rappelons qu'à cause, entre autres, des déchets plastiques ayant bouché les caniveaux, de fortes inondations ont causé des dégâts matériels et humains énormes dans la commune de Nzanza en 2024. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu au sommet des BRICS au Brésil en vol commercial. Le jet présidentiel est en effet cloué au sol en raison des défaillances et des maintenances qui n'ont pas été effectuées. Problème, l'armée sud-africaine n'a plus les moyens de réparer l'engin, ni même d'affréter des avions.
L'invité.
Notre invité est Bruno Lemarquis, coordinateur de l'action humanitaire en RDC. Dans un entretien accordé à Radio Capi, il revient sur la situation humanitaire difficile que traversent plus de 7 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo, ainsi que sur les perspectives envisagées en cette période marquée par une diminution significative de l'aide humanitaire. Bruno Lemarquis répond aux questions de Ronéline Thibonera.
Monsieur Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Pourriez-vous nous donner un aperçu de la situation humanitaire actuelle en République démocratique du Congo? Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés, mais aussi les opportunités qui pourraient être saisies?
Donc, comme les auditeurs le savent, bien sûr, la crise humanitaire en République démocratique du Congo, c'est une crise qui dure depuis très longtemps. C'est certainement la plus prolongée du monde. C'est une des plus complexes au monde, une des plus sérieuses, des plus graves au monde. Actuellement, quand on regarde les autres crises humanitaires au monde, la crise en RDC est la troisième en termes de population affectée, après le Soudan et après l'Afghanistan. Donc des millions et des millions de personnes sont en souffrance en République démocratique du Congo et ont besoin d'assistance. C'est une crise, essentiellement une crise de protection, qui touche énormément les femmes, les filles et les enfants. C'est une crise qui est connue pour la question des violences sexuelles liées au conflit, avec des chiffres qui font toujours froid dans le dos, tellement ils sont élevés. Au pic de la crise récente de janvier-février, avec tous les combats, tous les conflits, l'UNICEF avait estimé qu'il y avait un enfant violé toutes les 30 minutes. Imaginez ça, un enfant violé. C'est aussi une crise de déplacement, depuis très longtemps. Des millions de personnes sont déplacées en République démocratique du Congo. Actuellement, le chiffre qui fluctue toujours, mais c'est à peu près 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. 1,5 million sont déplacées en Ituri, ce qui en fait une grosse partie de la population de l'Ituri est déplacée. 1,8 million au nord Kivu, 1,4 million au sud Kivu, 400 000 déplacés au Tanganyika. Et puis également, il ne faut pas oublier les autres crises, notamment celle du Grand Bandundu, qui déplace également beaucoup de monde avec la crise des Mambondo.
Alors, comme nous parlons de cette crise humanitaire récemment, la population congolaise a assisté à cette visite de Tom Fletcher, qui est le sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de tirer un bilan de cette visite effectuée au pays?
Alors, on était très très contents d'avoir la visite de Monsieur Fletcher, donc qui est le sous-secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires. C'était la première fois depuis 2019 qu'il y avait la visite de la personne qui occupe cette fonction. Donc, pour une crise de cette ampleur, c'était une visite très très attendue. Il a eu l'occasion de rencontrer les autorités nationales. Il a également pu aller les accompagner, donc, à l'est. Nous avons été à Goma sur le terrain. Nous avons fait des visites de terrain à Minova, donc au sud Kivu, Sacha et à Niragongo, avec des interactions directes avec des communautés affectées par les conflits. et notamment des retournés, puisque comme vous le savez, le grand changement dans la suite aux événements de janvier-février au nord Kivu et au sud Kivu, c'est le retour, disons, le million de personnes qui étaient autour de Goma, des personnes qui sont rentrées chez elles, soit de manière volontaire, soit de manière forcée. Il y a eu beaucoup de retours forcés également. Ça a été une occasion pour lui, qui est nouveau dans son poste, de voir sur le terrain la situation. Cette visite s'est passée à un moment très particulier en ce qui concerne au niveau global, du fait de la crise financière mondiale par rapport au financement humanitaire, du fait de coupures budgétaires par certains États membres, certains donateurs, notamment les États-Unis d'Amérique. Pour que les auditeurs sachent, pour les USA, la RDC en 2024 était le premier programme humanitaire au monde avec 920 millions de dollars. Et du fait des coupures budgétaires, ça a un impact terrible sur les partenaires humanitaires. La RDC était également le pays le plus dépendant au monde de cette aide américaine. Donc l'impact est vraiment massif sur les partenaires, que ce soit les ONG locales, les ONG congolaises, les ONG internationales, les agences des Nations Unies. Nous ne sommes plus actuellement en mesure de répondre à tous les besoins. Nous ne l'étions pas déjà, mais encore moins. Donc ça a été une occasion pour lui, dans son plaidoyer mondial, de dire « je reviens de RDC, j'ai vu l'impact de mes yeux, en parlant à des personnes affectées, de toutes ces coupures budgétaires au niveau mondial ».
De nombreuses communautés du Nord Kivu, du Sud Kivu et plus largement dans l'Est de la République démocratique du Congo vivent dans l'incertitude, et cette incertitude c'est entre violence, déplacement forcé et manque de perspective. En tant que coordonnateur humanitaire des Nations Unies, quel message souhaitez-vous partager aujourd'hui à toutes ces communautés qui vous écoutent ?
Aux communautés affectées, je veux juste dire que les collègues humanitaires sur le terrain, le système humanitaire, fait tout ce qu'il peut pour être à leur côté, malgré les difficultés auxquelles nous faisons face en ce moment, la principale étant la question des financements. Et chaque fois que je vais sur le terrain, je vois bien ça. C'est les organisations qui ont vraiment du mal à continuer, par exemple, la provision de services, services de santé, d'eau potable, etc. Mais on reste vraiment absolument mobilisés pour apporter l'assistance humanitaire aux communautés les plus affectées.
Bruno Lemarquis, nous disons merci.
Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci à vous. C'est par ici que prend fin cette édition coordonnée par Richard Junior Kamunga, Pierre Diassinois, la mise en onde. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.